Vous écoutez, on lit pour vous.
Fini le neuf, une usine Renault retape des autos. Un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 17 mai 2025 dans la presse. Pendant 73 ans, on y a construit des voitures neuves, dont les fameuses Renault 5 exportées au Québec. Mais l'usine Renault de Flins-sur-Seine, près de Paris, reconditionne maintenant des véhicules usagés et des pièces de remplacement. Un pari sur l'économie circulaire qui pourrait inspirer l'industrie automobile canadienne. Industrialiser la réparation. Des dizaines de voitures sont suspendues dans les airs, d'autres sont stationnées au sol, en partie démontées, auscultées par une armée de spécialistes. Comme David, un débosseleur qui s'affaire minutieusement à faire disparaître un petit enfoncement dans une portière à coups de ventouses et de baguettes au passage de la presse. « Il faut être patient », lance-t-il modestement pour expliquer la clé de son succès. Cet immense atelier mécanique, grand comme deux terrains de soccer, est situé en plein cœur du complexe industriel du constructeur automobile français Renault à Flins-sur-Seine, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Le site, qui borde le célèbre fleuve français et où étaient construits des véhicules neufs jusqu'en mars 2024, dont les iconiques Renault 5 exportés au Québec dans les années 1970 et 1980, a graduellement été transformé depuis quelques années en Refactory, un écosystème axé sur le reconditionnement de véhicules, mais aussi de pièces, ainsi qu'à une douzaine d'autres activités du constructeur ou de ses partenaires. C'est la première usine d'économie circulaire en Europe, s'enorgueillit son directeur, Stéphane Radu, qui a 33 ans de service chez Renault. Aucun autre constructeur automobile ne fait une telle chose. Seules des associations de concessionnaires automobiles ont centralisé leurs services de reconditionnement dans des ateliers mécaniques du genre, mais plus petits, dit-il. Sauver des voitures. Deux types de reconditionnement sont possibles à la Refactory de Renault, la réparation de véhicules accidentés dans la Bodywork Factory et la réparation de véhicules destinés à la revente, comme un retour de location, qu'elle soit mineure ou qu'il s'agisse d'une remise à neuf dans la Renew Factory. Dans tous les cas, ce sont les concessionnaires automobiles, Renault mais aussi d'autres marques, qui sont les clients de la Refactory. Un particulier ne peut y envoyer directement sa voiture. Industrialiser le reconditionnement des véhicules usagés permet des économies de temps et d'argent, indique Stéphane Radu. On a tout le matériel dont on a besoin pour réparer toutes sortes d'accidents, explique-t-il. Ajoutant que l'usine fonctionne 16 heures par jour, avec deux quarts de travail, et qu'un quart de nuit pourrait être ajouté aux besoins. Ces économies peuvent faire la différence entre une voiture accidentée qui sera déclarée perte totale par l'assureur, si le coût de réparation excède le coût de remplacement, et une voiture qui pourra être remise sur la route. Plus vous baissez le coût de réparation de la voiture, plus vous sauvez de voitures, affirme Stéphane Radu. Le coût moyen de réparation pour un véhicule destiné à la revente est de 800 euros, 1 250 $, explique Lisiane Guillotot, chef des deux services de reconditionnement Bodywork Factory et Renew Factory, qui précise traiter des véhicules âgés d'au plus 9 ans. Dernière étape, après la peinture et un dernier nettoyage de la voiture, le studio photo. Donc, le client peut la mettre en vente tout de suite sur son site Internet et même la vendre avant qu'elle ait quitté l'usine, dit-elle. La Refactory de Renault a ainsi remis en état plus de 2 800 véhicules accidentés depuis septembre 2023. Elle a aussi reconditionné plus de 50 000 véhicules destinés à la revente. Un troisième volet s'ajoutera en septembre 2025, le démantèlement de véhicules accidentés non réparables. Renault prévoit en traiter de 5 000 à 10 000 par année. Les pièces non réutilisables seront triées et envoyées au recyclage, mais toutes celles encore bonnes seront mises de côté afin de pouvoir servir au reconditionnement de véhicules, une disponibilité qui permettra de gagner encore plus de temps. Avec son site de 232 hectares à Flins-sur-Seine, ce n'est pas l'espace d'entreposage qui manque pour Renault. C'est plus grand que Monaco, mais moins rentable, lance Stéphane Radu, fier de sa boutade. Un marché à prendre. Si Renault a investi le marché du véhicule usagé, c'est aussi parce qu'il y avait un intérêt financier. En tant que constructeur, on crée une valeur importante et après, pendant toute la vie du véhicule, on entretient la voiture, donc on entretient la valeur, dit Stéphane Radu. Sauf que cette valeur, on la perdait complètement à la fin de vie de la voiture. Elle nous échappait parce qu'on ne s'en occupait plus. Et avec la rareté des véhicules neufs causée par la pénurie de composants électroniques durant la pandémie de COVID-19, le prix des véhicules usagés a bondi. Il y a eu un marché à prendre, lance M. Radu. Les concessionnaires et les entreprises spécialisées qui effectuent depuis des lustres, à plus petite échelle, ce travail de reconditionnement ne voient toutefois pas d'un bon œil Renault débarquer dans leur plate-bande. « C'est difficile, reconnaît Stéphane Radu. Je ne pense pas qu'on va partir en vacances ensemble. La géopolitique mondiale actuelle, avec la guerre russe en Ukraine et les droits de douane imposés par les États-Unis, pèse aussi sur l'approvisionnement en matières premières, indique-t-il, rappelant qu'une voiture thermique contient de 15 à 20 kg de cuivre et qu'une voiture électrique contient beaucoup de terres rares. Récupérer ça, dit M. Radu, c'est peut-être ne pas dépendre d'autres pour pouvoir remettre ça dans de nouvelles voitures. Vous écoutez, fini le neuf, une usine Renault retape des autos, un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 17 mai 2025 dans la presse. Des lois plus strictes. L'adoption en France de lois environnementales plus strictes, comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, a aussi favorisé la naissance de la Refactory de Renault. Cette loi adoptée en 2020 renforce le principe de responsabilité élargie des producteurs, REP, en obligeant les constructeurs automobiles à reprendre gratuitement les véhicules qui ont atteint la fin de leur vie utile, les désassembler et les dépolluer. La REP française contient aussi des dispositions visant à augmenter le réemploi de pièces récupérées. Le système de bonus-malus qui existe en France sur les véhicules neufs, lequel impose une surtaxe aux véhicules énergivores et accorde une subvention aux véhicules à zéro émission, favorise aussi les véhicules usagés, souligne Stéphane Radu. Cette taxe peut aller jusqu'à 70 000 euros, 110 000 dollars, si elle est vraiment trop polluante. Ça peut doubler le prix de la voiture, dit-il. Et donc, le véhicule d'occasion, comme il n'est pas frappé de bonus-malus, a pris beaucoup, beaucoup d'intérêt. Les syndicats divisés. la conversion de l'usine Renault de Flins-sur-Seine ne fait pas l'unanimité chez les syndicats, l'un d'eux estimant que la fermeture n'a jamais été si proche. Les nouvelles activités du site battent de l'aile. Et l'une a même complètement cessé, dit Ali Kaya, secrétaire du syndicat affilié à la Confédération générale du travail, CGT, rappelant que son syndicat s'était opposé dès le départ au projet de Refactory en raison de l'arrêt de la construction de voitures neuves qu'il impliquait. M. Kaya déplore aussi que le projet vole le travail des garagistes. Si on fait de la réparation industrialisée sur chaîne, ça peut avoir des avantages. Mais du point de vue du patron, dit-il, du point de vue de l'emploi et du travailleur, quels sont les avantages? On réduit le nombre de travailleurs, on fait plus de chômeurs. Le syndicat, affilié à la centrale Force ouvrière, FO, cinquième en importance dans l'usine, voit les choses d'un autre œil. L'annonce en 2020 de l'arrêt de la production de voitures neuves en 2024 a certes été un choc pour beaucoup de salariés qui y voyaient une sorte de pré-fermeture du site, se rappelle Mounir Mestari, délégué syndical du syndicat FO pour l'ensemble du groupe Renault. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Il se vend 3 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs en France. Il y a un créneau à saisir, dit-il, ajoutant que les travailleurs ont été formés à leur nouveau métier de manière convenable. Il y a quelques années, personne ne croyait à l'avenir de Flins. Tout le monde parlait de la fermeture, rappelle M. Mestari. Force est de constater que l'usine est toujours ouverte. En savoir plus, 18 747 760, nombre de véhicules neufs construits à l'usine Renault de Flins-sur-Seine en 73 ans d'histoire, source Renault. 1 400 000, nombre de véhicules qui deviennent hors d'usage chaque année en France. Un moteur neuf fait de pièces usagées. Flins-sur-Seine. Un petit chariot rempli de pièces automobiles avance tout seul dans l'allée centrale de l'usine, se dirigeant vers une station d'assemblage où un employé reconstruira un nouveau moteur à partir de ces morceaux usagés provenant de différents véhicules. Les gens ne demandent que ça maintenant, lance fièrement Patrice Parichou, directeur des opérations de The Remakers. Cette filiale de Renault, dans laquelle le géant Suez détient une participation, reconditionne différents organes d'automobiles, comme des moteurs, des systèmes d'injection et des boîtes de vitesse manuelle, qui sont ensuite vendues aux services de réparation de partout dans le monde, ou à l'usine de reconditionnement de véhicules, juste à côté. On va récupérer des garages, des organes en dysfonctionnement, on les lave, on les nettoie, on fait la vérification de leur conformité, explique M. Parichou, ajoutant que les pièces qui ne sont pas récupérables sont envoyées à des fonderies appartenant à Renault. S'il s'agit d'acier ou d'aluminium, tandis que les autres matières sont envoyées à des sites de recyclage externes. Le niveau de qualité égal ou supérieur à une composante neuve est très apprécié des concessionnaires automobiles, explique M. Parichou, ajoutant qu'un organe reconditionné nécessite 80% moins de matière première. En plus, c'est 30% moins cher, poursuit-il, avant que sa voix ne soit enterrée par le bruit d'un moteur qui démarre. « Tous nos organes sont testés », explique-t-il. Avenir électrique. The Remakers reconditionne aussi des composantes de véhicules électriques dans son usine baignée de lumière naturelle, qui servait anciennement de tôlerie pour le petit modèle thermique Twingo de Renault. On est le leader européen de la rénovation de moteurs électriques et d'électronique de puissance, ce qui transmet l'énergie du moteur électrique aux roues, s'enorgueillit Patrice Parichoux, qui précise d'ailleurs que cette partie de l'usine ne peut être photographiée. « Ça, c'est notre avenir », dit-il, soulignant que ses composantes ont une très haute valeur ajoutée. De 90 à 95% des pièces d'un moteur électrique ou du système électronique de puissance peuvent être récupérées, contre 60 à 70% pour les organes de véhicules thermiques, souligne M. Parichoux. Une pratique vieille de 70 ans. Reconditionner des composantes d'automobiles n'a rien de nouveau pour Renault, qui le faisait sur un autre site depuis 1949. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà une pénurie de matières premières et Renault a eu l'idée de récupérer des vieux organes pour en faire des neufs, explique Patrice Parichoux. L'économie circulaire, pour nous, ce n'est pas nouveau. Ça fait plus de 70 ans. Le marché des pièces de réemploi atteindra 6,8 milliards d'euros, 10,6 milliards de dollars canadiens, en 2030 en Europe, poussé notamment par le vieillissement du parc automobile, souligne M. Parichoux. The Remakers a déménagé à Flins-sur-Seine en 2022 sur le site de la Refactory de Renault, mais l'entreprise désormais distincte reconditionne aussi des composantes de Daimler et de Nissan, indique son directeur des opérations, et pourrait travailler pour n'importe quel constructeur. Vous écoutez Fini le neuf, une usine Renault retape des autos, un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 17 mai 2025 dans la presse. La Refactory, c'est aussi de la conversion électrique. Avec Retrofit, Renault et la jeune pousse TOLV convertissent des fourgons Renault Master 3 thermiques en véhicules électriques. Ces fourgons, souvent utilisés par de petites entreprises, peuvent ainsi circuler dans les zones à faible émission qu'on trouve désormais dans de nombreuses villes françaises, auxquelles ils n'auraient autrement pas accès. Du reconditionnement de robots. Renault ne reconditionne pas que ses vieilles voitures. La majorité des 789 robots qui fabriquaient des voitures neuves sur le site de Flins-sur-Seine ont été reconditionnés et sont désormais, dans d'autres usines Renault dans le monde, en train de fabriquer les nouvelles voitures, indique Stéphane Radu, directeur de la Refactory. Du stockage d'énergie. Pour donner une deuxième vie aux batteries de véhicules électriques, Renault a aménagé un site de stockage d'énergie de 15 MW sur son site. Les distributeurs d'électricité peuvent ainsi y stocker de l'énergie produite hors période de pointe et l'injecter dans le réseau en période de pointe. This is France. En plus du remanufacturing de pièces et du smart repair de carrosserie, la Refactory de Renault Group abrite aussi un hub d'open innovation, un incubateur de jeunes pousses et la Renault University, un programme de formation qui propose des learning expeditions, des séminaires. Le constructeur français assume cette omniprésence de l'anglais. Notre volonté est d'être reconnu et reconnaissable partout en Europe, explique le directeur du site, Stéphane Radu. Les manufacturiers ici manquent une belle occasion. L'industrie canadienne de l'automobile aurait tout intérêt à s'inspirer de Renault et se tourner vers l'économie circulaire. Mais elle en est encore loin, faute de cadre réglementaire approprié, estiment des acteurs et observateurs du secteur. Je pense que l'approche de Renault est innovatrice, affirme Jean-François Champagne, président et directeur général de l'Association des industries de l'automobile du Canada, qui représente des milliers d'entreprises du secteur de l'entretien et de la réparation automobile au pays, des fabricants de pièces aux installateurs, en passant par les distributeurs. La tendance canadienne va malheureusement dans le sens contraire. Les constructeurs automobiles développant des méthodes qui rendent très difficile l'entretien et la réparabilité, déplore-t-il. Vous avez des véhicules qui se retrouvent dans les cours de recycleurs avec des composantes qu'on sait encore fonctionnelles et qui, malheureusement, ne peuvent pas être utilisées parce qu'il y a des protections logicielles, entre autres, qui préviennent la réutilisation de ces composantes-là, poursuit M. Champagne. Le Québec se démarque toutefois avec l'adoption en 2023 de la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens, dont les aspects concernant le secteur automobile, qui doivent entrer en vigueur cette année, pourraient faciliter la réparabilité des véhicules. On a de grands espoirs par rapport à ça, indique Jean-François Champagne. Bénéfique pour les consommateurs. Reconditionner pièces et véhicules est extrêmement intéressant pour les consommateurs et il serait souhaitable que les constructeurs présents au Canada s'inspirent de Renault, estime le conseiller en mobilité durable de l'organisation Équiterre, Daniel Rochefort. Les véhicules neufs sont de moins en moins abordables. Il y a tout un pan d'acheteurs exclus qui sont obligés d'aller dans l'usager. Le reconditionnement vient donner des véhicules de qualité, analyse-t-il. Les manufacturiers ici manquent une belle occasion. Ils laissent aller toute une richesse, comme Renault l'a bien compris. Le concept peut fonctionner partout, croit le directeur de la Refactory de Renault, Stéphane Radu, mais il faut tenir compte de la distance et du coût de transport entre l'endroit d'où proviennent les véhicules usagés et le site de reconditionnement pour que l'intérêt écologique et financier soit au rendez-vous, prévient-il. La région de Paris, où se trouve le site de Renault, c'est plus de 10 millions de voitures. C'est un puits sans fond, illustre-t-il. Renault elle-même s'affaire à répliquer le modèle de sa Refactory ailleurs dans le monde, notamment en Espagne et en Pologne, et le constructeur Stellantis prépare la conversion d'une ancienne usine de Fiat en Italie en site de reconditionnement, indique M. Radu. Pas d'intérêt des constructeurs. Le reconditionnement de véhicules et de pièces est un sujet qui n'a pas vraiment été abordé par l'industrie canadienne, affirme Patrice Maltais, directeur des relations avec les parties prenantes et des affaires québécoises des constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, l'une des deux organisations représentant les constructeurs au pays. Seuls deux membres de cette association ont des usines au Canada, soit Toyota et Honda, et elles fonctionnent au maximum de leur capacité, indique M. Maltais dans un courriel à la presse, ajoutant que Honda a aussi annoncé un réinvestissement, reporté après cet entretien, dans ses activités. On n'en est donc pas à tenter de leur trouver une vocation ultérieure ou une conversion potentielle à ce stade-ci, ajoute celui dont l'organisation représente aussi Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Volkswagen et Volvo. Les constructeurs Ford, General Motors et Stellantis, qui possèdent notamment les marques Chrysler, Dodge et Jeep, ainsi que l'organisation qui les représente, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules, n'ont quant à eux pas donné suite aux sollicitations de la presse. C'était, fini le 9, une usine Renault retape des autos, un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 17 mai 2025 dans la presse.
Dans le déni climatique, les États-Unis de Trump font cavalier seul. Un texte de David Gillis du New York Times paru le 20 mai 2025 dans Le Devoir. Lorsque le gouvernement Trump a déclaré, il y a deux semaines, qu'il ne tiendrait pas compte du coût économique des changements climatiques dans l'élaboration de ses politiques et réglementations, ce n'était que la dernière étape d'une initiative à plusieurs volets visant à effacer le réchauffement climatique de l'ordre du jour américain. Le président Donald Trump ne se contente toutefois pas de fermer les yeux sur le fait que la planète se réchauffe. Il affaiblit également la capacité du pays à comprendre les changements climatiques et à se préparer à leurs conséquences. Le gouvernement Trump a démantelé la recherche sur le climat, licencié certains des meilleurs scientifiques du pays et réduit à néant les efforts visant à déterminer la vitesse à laquelle les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et ce que cela signifie pour l'économie, l'emploi, l'agriculture, la santé et d'autres aspects de la société américaine. Le gouvernement ne suivra plus les principales sources de gaz à effet de serre, données qui ont été utilisées pendant 15 ans pour mesurer l'ampleur du problème et en déterminer les sources. Nous ne nous occupons plus de ces absurdités sur les changements climatiques, a déclaré le secrétaire à l'agriculture Brooke Rollins à Fox Business le 8 mai 2025. En supprimant ces données, le gouvernement américain tente de mettre fin au débat national sur la manière de lutter contre le réchauffement climatique, a déclaré Daniel Swain, climatologue à l'Université de Californie à Los Angeles. L'idée voulant qu'il existe une réalité factuelle commune semble avoir complètement disparu, a-t-il dit. Dans le même temps, en réduisant le budget du Service météorologique national et en refusant l'aide aux sinistrés par l'intermédiaire de l'Agence fédérale de gestion des urgences, FEMA en anglais, le gouvernement Trump a affaibli la capacité du pays à se préparer et à se remettre des ouragans, des incendies, des sécheresses et autres phénomènes météorologiques extrêmes aggravés par les changements climatiques. Le président américain s'apprête également à assouplir les restrictions sur la pollution atmosphérique, ce qui, selon les experts, entraînera une augmentation des émissions responsables du réchauffement climatique et à supprimer le pouvoir légal du gouvernement de réglementer ces gaz. Toutes ces mesures risquent de faire en sorte que la première économie mondiale sera moins informée, moins préparée et, à terme, plus polluée. Quelles menaces? Trump rejette les menaces posées par les changements climatiques, suggérant que la montée des eaux créerait davantage de propriétés en bord de mer. Il accuse les fanatiques du climat d'être responsables des réglementations environnementales qui, selon lui, freinent l'économie américaine. Dès son premier jour au pouvoir, Trump a déclaré l'état d'urgence énergétique national, une décision contestée par les experts, car les États-Unis produisent plus de pétrole que n'importe quel autre pays dans l'histoire et sont le plus grand exportateur mondial de gaz naturel. Trump a invoqué l'état d'urgence pour justifier l'accélération des autorisations pour les projets pétroliers, gaziers et charbonniers et l'expansion de l'exploitation forestière dans les forêts nationales. Certains s'accordent pour dire que la réforme de la réglementation environnementale du pays était nécessaire depuis longtemps. Selon Robert Stevens, professeur d'énergie et de développement économique à l'Université Harvard, la complexité et la longueur des procédures d'obtention des permis pour la construction de pipelines, de lignes de transport d'électricité et de projets de forage ont également entraîné des retards importants pour les parcs éoliens, les projets solaires et d'autres énergies propres. L'ensemble du processus d'octroi des permis aux États-Unis est tout simplement chaotique, a-t-il déclaré. Mais le président est allé bien plus loin que la simple accélération des procédures d'autorisation. Il a fait du gouvernement américain un cas unique au monde dans son déni de la science. « C'est comme si nous étions au Moyen Âge », a déclaré Rachel Cletus, directrice principale des politiques du programme Climat et Énergie de l'Union of Concerned Scientists. Suppression des données climatiques. Fondamentalement, le gouvernement Trump est en train de démanteler la capacité du gouvernement à surveiller un climat en rapide évolution. En avril 2025, le gouvernement Trump a licencié des centaines de scientifiques et d'experts qui travaillaient sur le National Climate Assessment, un rapport commandé par le Congrès qui détaille les effets du réchauffement climatique sur des régions précises du pays. Ces dernières semaines, plus de 500 personnes ont quitté le National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, la principale agence gouvernementale chargée des sciences du climat et de la météorologie. Cela a conduit le National Weather Service, une agence de la NOAA, à mettre en garde contre une dégradation des opérations. La NOAA a également mis fin à ses briefages mensuels sur le changement climatique et le budget proposé par le président prévoit la suppression du financement des recherches sur la météo et le climat menées par l'agence. Le gouvernement a supprimé les expressions « crise climatique » et « science du climat » de ses sites web. Le Département de l'efficacité gouvernementale DOGE, en anglais, une initiative de réduction des coûts menée par le milliardaire Elon Musk, a proposé de fermer un observatoire de la NOAA à Hawaï qui surveille en continu les niveaux de gaz à effet de serre depuis 1958. Les données recueillies sur place ont servi à créer la courbe de Keeling, un graphique bien connu qui montre la forte augmentation récente des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les données provenant d'Hawaï et d'autres stations de surveillance de la NOAA sont partagées avec des scientifiques du monde entier et servent de base aux négociations internationales sur le climat. L'absence de collecte de données scientifiques va nuire à notre capacité à comprendre le monde naturel et physique, a déclaré Brandon Jones, président de l'Union géophysique américaine. Cela va également avoir un impact sur notre capacité à fournir des systèmes d'alerte précoces en cas de tempête violente ou de feux de forêt. Cela va avoir des répercussions sur des vies humaines. Un porte-parole du département du commerce qui supervise la NOAA a défendu ses coupes budgétaires, affirmant que l'agence étudiait de nouvelles méthodes de collecte de données et ne s'attendait pas à des perturbations dans les prévisions météorologiques. Vous écoutez, dans le déni climatique, les États-Unis de Trump font cavalier seul. Un texte de David Gillis du New York Times paru le 20 mai 2025 dans Le Devoir. La capacité de réaction. Donald Trump a également choisi de réduire la réponse du gouvernement fédéral aux catastrophes, une mission qui remonte à 1803. La Maison-Blanche tente ainsi de transférer la responsabilité aux États. Le gouvernement Trump a annulé un programme de la FEMA visant à rendre les communautés plus résilientes avant que les catastrophes ne frappent, le qualifiant de « gaspilleur et inefficace ». Elle a également déclaré que le personnel de la FEMA ne ferait plus de porte-à-porte pour aider les survivants après une catastrophe. Dans un communiqué, un porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré qu'en cas de catastrophe, les États doivent avoir la volonté de s'approprier le problème. le gouvernement Trump réforme un système d'aide aux sinistrés défaillant qui a maintes fois laissé tomber les Américains, a déclaré Kosh Desai, porte-parole du gouvernement. Au lieu de distribuer des chèques en blanc, le gouvernement travaille avec les responsables des États et les collectivités locales pour investir de manière proactive et adopter des politiques de bon sens qui donnent la priorité à la préparation aux catastrophes et à la résilience. Avec l'aggravation du réchauffement climatique causé par l'homme, les catastrophes sont de plus en plus fréquentes, destructrices et coûteuses. Selon les données recueillies par la NOAA, il n'y a eu que 3 catastrophes dont le coût a été évalué à 1 milliard de dollars aux États-Unis en 1980, mais ce chiffre est passé à 27 en 2024. L'agence a déclaré qu'elle ne comptabiliserait désormais plus les coûts des phénomènes météorologiques extrêmes ni ne les rendrait publics. Daniel Kaniewski, qui a occupé le poste d'administrateur adjoint par intérim de la FEMA pendant le premier mandat de Donald Trump, a déclaré qu'il était peu judicieux de supprimer des programmes qui aident les communautés à se prémunir contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Plus nous nous passerons de ces programmes, plus les risques pour ces communautés et pour le pays seront importants, a déclaré M. Kaniewski, qui est aujourd'hui directeur général chez Marsh McLennan, un courtier en assurance et conseiller en gestion des risques. Et très vite, nous en subirons tous les conséquences. À l'approche de la saison des ouragans, la FEMA est dirigée par un administrateur par intérim qui n'a aucune expérience en matière de gestion des urgences. Selon des documents de l'agence, au 8 mai 2025, celle-ci disposait d'environ la moitié moins de personnel formé pour répondre aux catastrophes qu'à la même période en 2024. Cela fait suite à des mois de réduction des effectifs de la FEMA après des démissions et des licenciements. Réduction radicale des réglementations. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, qui était jusqu'à présent l'agence gouvernementale chargée de mesurer et de contrôler les émissions de gaz à effet de serre, est en cours de restructuration dans le but de mettre fin à ses responsabilités. Le gouvernement réduit considérablement le personnel et le budget de l'EPA et souhaite abroger ses deux réglementations les plus strictes en matière de climat, les limites sur les émissions polluantes des pots d'échappement et des cheminées. Le président Trump a déclaré que l'assouplissement des limites sur les émissions polluantes des automobiles n'aurait absolument aucun impact sur l'environnement. Or, les transports sont la principale source de gaz à effet de serre aux États-Unis et leur pollution est liée à l'asthme, aux maladies cardiaques, à d'autres problèmes de santé et à des décès prématurés. Le démantèlement des réglementations aura des effets catastrophiques sur la santé en Amérique, a déclaré Harold Wimmer, PDG de l'American Lung Association. Freiner la transition énergétique. Bien que l'hostilité de Trump envers l'énergie éolienne et la plupart des technologies d'énergie propre qui aideraient le pays à s'affranchir du pétrole, du gaz et du charbon, et à réduire les émissions responsables du réchauffement climatique soit bien connue, les mesures prises par son gouvernement le mois dernier ont choqué de nombreux observateurs. Celui-ci a en effet ordonné l'arrêt de la construction d'un parc éolien au large de Long Island, dans l'État de New York. Ce parc éolien, développé par la société norvégienne Equinor, avait obtenu toutes les autorisations nécessaires en 2023 après près de 4 ans d'études environnementales ainsi qu'un financement de 3 milliards de dollars. Le projet, qui devait alimenter 500 000 foyers en électricité d'ici 2027, était achevé à environ 30 % lorsque l'ordre d'arrêt des travaux a été donné. Le secrétaire au département de l'Intérieur, Doug Burgum, a laissé entendre sur les réseaux sociaux que les autorisations avaient été accordées à la hâte. Equinor envisage d'intenter une action en justice. Arrêter un projet qui a déjà obtenu tous les permis fédéraux est assez inédit, surtout à une telle échelle, a déclaré Robert Friedenberg, vice-président des programmes énergétiques et environnementaux de la Regional Plan Association, une organisation à but non lucratif et non partisane de promotion du développement dans la région de New York. Cela montre à quel point ils sont déterminés à nuire à cette industrie. Le projet de budget du président prévoit la suppression du financement du Green New Scam, notamment 15 milliards de dollars de coupes budgétaires au département de l'énergie pour les projets d'énergie propre et 80 millions de dollars au département de l'intérieur pour l'éolien en mer et d'autres énergies renouvelables. Le gouvernement a gelé les autorisations pour de nouveaux parcs éoliens en mer et imposé des droits de douane qui augmenteraient les coûts pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables. Les républicains au Congrès veulent supprimer des milliards de dollars d'incitations fiscales pour la production et la vente de panneaux solaires, de batteries, de véhicules électriques et d'autres technologies d'énergie propre. Certains républicains tentent de préserver les crédits d'impôt, affirmant qu'ils ont contribué à stimuler les investissements dans le secteur manufacturier. Beaucoup de ces membres ont investi des milliards et des milliards de dollars dans leur district, a déclaré Heather Reams, présidente de Citizen of Responsible Energy Solutions, un groupe conservateur à but non lucratif. Seul au monde. Le retrait américain de la lutte contre le changement climatique a fait des États-Unis un cas particulier sur la scène mondiale. Presque tous les autres gouvernements ont reconnu que le réchauffement de la planète constitue une menace importante pour les êtres humains et les écosystèmes. Ce n'est pas le cas du gouvernement Trump, qui a fait des États-Unis le seul pays à se retirer officiellement de l'accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique. Partout dans le monde, les pays se précipitent pour s'adapter au réchauffement rapide de la planète, pour réduire la pollution et pour développer des énergies propres. La Chine, seule autre superpuissance, a pris la décision stratégique d'adopter les énergies propres, puis de les vendre à l'étranger, dominant ainsi les marchés mondiaux des véhicules électriques, des panneaux solaires et d'autres technologies. Même l'Arabie saoudite, plus grand producteur mondial de pétrole après les États-Unis, investit massivement dans l'énergie éolienne et solaire. En 2024, les températures mondiales moyennes ont atteint des niveaux records dépassant de 1,5 degré centigrade les niveaux pré-industriels, un seuil que les nations s'efforcent d'éviter. Chaque fraction de degré supplémentaire augmente le risque d'effets graves et de changements potentiellement irréversibles pour la planète. Selon les scientifiques, les nations doivent réduire rapidement et considérablement la pollution afin d'éviter un avenir sombre marqué par des conditions météorologiques de plus en plus violentes, des vagues de chaleur mortelles, des sécheresses, des pénuries d'eau et des déplacements de population. Mais en cette période périlleuse, les États-Unis sont pratiquement les seuls au monde à rejeter la science du climat. « Nous voyons ici un gouvernement qui s'attaque à la science », a déclaré M. Cletus. « C'est le genre de destruction qui aura des répercussions pendant longtemps. » C'était « Dans le déni climatique, les États-Unis de Trump font cavalier seul ». Un texte de David Gillis du New York Times paru le 20 mai 2025 dans Le Devoir.
Du pain et des roses, plus que jamais. Un texte collectif paru le 22 mai 2025 dans La Presse. Le 26 mai 1995, sous un soleil radieux, des centaines de femmes entament à pied un voyage de 200 kilomètres qui les conduira de Montréal, Longueuil et Rivière-du-Loup à Québec. 27 municipalités hébergeront les 3 contingents de marcheuses dans des sous-sols d'églises, des centres communautaires, des gymnases. Le 4 juin 1995, devant l'Assemblée nationale, Jacques Parizeau, premier ministre du Québec, accompagné de plusieurs ministres, viendra répondre aux revendications des marcheuses. La foule est estimée à 18 000 personnes. Nous y sommes, heureuses de signifier notre appui à ce projet féministe sans précédent. Nous, femmes engagées dans divers milieux, avons accepté de devenir les marraines de ce projet magnifique. Nous reconnaissions son caractère urgent, rassembleur et novateur. En 1995, 20% de la population québécoise vivait sous le seuil de faible revenu. La récession de 1991-1992 avait fait très mal. L'inflation était élevée autour de 5% en 1991, de même que le chômage, 14,3% en novembre 1992. La sous-traitance, la précarité, les inégalités salariales, les pertes d'emplois étaient légion. Des mères de famille monoparentales n'y arrivaient plus. Des jeunes cherchaient désespérément un emploi. Des personnes aînées, dont beaucoup de femmes, vivaient dans la pauvreté et l'isolement. En 1989, le massacre misogyne de Polytechnique avait partiellement anesthésié le mouvement des femmes. Il y avait bien eu le beau forum Un Québec féminin pluriel en 1992, mais nous avions besoin d'un grand projet unificateur, d'une action solidaire, visible. Et c'est ce que la Fédération des femmes du Québec, FFQ, nous proposait, accompagnée et soutenue par tout le mouvement des femmes. En choisissant le slogan « Du pain et des roses », le mouvement s'inscrivait dans la longue lignée des femmes réclamant du pain. Les femmes de la Nouvelle-France marchant en 1758 contre l'augmentation du prix du pain, les ouvrières et paysannes françaises montées à Versailles en 1789 pour exiger du pain, les travailleuses du textile en grève en 1912 à New York scandant « We want bread and roses ». En 1995, la FFQ a donc clamé « Nous voulons non seulement de quoi vivre, le pain, mais des raisons de vivre, les roses ». En janvier 1995, les inscriptions sont lancées et rapidement des centaines de femmes venant de milieux très diversifiés s'inscrivent. Cette marche devient l'affaire de toutes et aussi de nous, marraines, qui mettons la main à la pâte du mieux que nous pouvons. Certaines marchent plusieurs jours, d'autres galvanisent les marcheuses par des chansons et des slogans maison. Nous publicisons notre appui et nous mobilisons nos amis « eux » et « amis » pour le rassemblement du 4 juin à Québec. Nous y serons, émus et fiers. Nous soutenons les revendications portées par les marcheuses, une loi sur l'équité salariale et une autre sur la perception automatique des pensions alimentaires. Du logement social, le gel des droits de scolarité, la rétroactivité d'une politique réduisant le temps de parrainage pour les femmes immigrantes, la création d'un programme d'infrastructure sociale avec des emplois payés correctement et accessibles aux femmes. Mais surtout, une augmentation significative du salaire minimum, la revendication la plus populaire. Le 4 juin 1995, devant une foule survoltée, nous, marraines, répétons avec force ces revendications. Le premier ministre Parizeau et ses ministres dévoilent ensuite leurs réponses. Une augmentation de 45 sous du salaire minimum. Déception. Mais c'est oui pour les femmes immigrantes, pour le gel des droits de scolarité. Du logement social, oui, mais il en faudra davantage. Et 225 millions sur 5 ans pour des emplois dans des secteurs occupés majoritairement par des femmes, groupes communautaires, féministes, coopératives, OBNL. Un effet d'entraînement. Nous célébrons le courage et la persévérance des femmes. Nous sommes fiers d'avoir contribué au succès d'une marche qui a mobilisé des femmes et des hommes dans toutes les régions du Québec. La marche du pain et des roses donnera ensuite naissance à la marche mondiale de l'an 2000 contre la pauvreté et les violences faites aux femmes. Un réseau international d'action féministe est né. Tous les 5 ans, des actions sont menées dans une centaine de pays. 2025 ne fera pas exception. Des images de la marche de 1995 nous habitent encore. Les 10 000 roses brandies dans nos poings levés le 4 juin 1995. Pauline Julien, venue nous saluer au premier jour de la marche, tout comme Léa Robach et Madeleine Parent, nos héroïnes des luttes ouvrières et féministes. Nos chansons, nos rires, nos ampoules aux pieds, les négociations opiniâtres, les défis médiatiques, mais surtout un espoir tenace. Que plus jamais les femmes ne se taisent, qu'elles revendiquent fièrement leurs droits partout et toujours. L'année 2025 est chargée de douleurs et de questionnements. Les Québécoises voient avec stupéfaction les droits des femmes reculés chez notre voisin du Sud. Elles déplorent ici même les 25 féminicides survenus en 2024. Elles observent la montée d'un masculinisme inquiétant qui sévit chez des jeunes hommes. Sans compter la précarité des revenus de trop de femmes, le difficile accès au logement, le manque aberrant de places en service de garde. Le temps est donc venu des actions mobilisatrices. Nous commémorerons bientôt les 30 ans de la marche de 1995 et poursuivrons la mobilisation pour les femmes, pour les gens, pour la planète. Pour du pain et des roses. Pour avoir de quoi vivre et des raisons de vivre. Co-signataire, Aoura Bizari, fondatrice du collectif des femmes immigrantes du Québec, France Castel, chanteuse et comédienne, Ariane Aymon, journaliste indépendante et animatrice, Rani Lee, chanteuse, musicienne et professeure de jazz à l'Université McGill, Chantal Petitclerc, sénatrice, médaillée olympique, Michel Rouleau, militante pour les droits des Premières Nations, Marie-Claire Séguin, autrice, compositrice, interprète, coach vocal et artiste peintre, Marie-Josée Turcotte, communicatrice et guide de randonnée, ex-journaliste animatrice et chef d'antenne à Radio-Canada, Marjorie Villefranche, ex-directrice générale de la Maison d'Haïti, appuyée par Françoise David, ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec. C'était « Du pain et des roses, plus que jamais », un texte collectif paru le 22 mai 2025 dans « La presse ».
Se déplacer en transport collectif dans la région de Montréal coûtera 3 % plus cher dès cet été. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir. Les usagers des transports en commun de la région de Montréal devront payer plus cher pour se déplacer à compter du 1er juillet 2025. Les prix des titres de transport subiront une hausse moyenne de 3 % qui fera notamment passer le coût du titre mensuel de la zone A de 100 $ à 104,50 $. Le coût des passages unitaires demeurera inchangé dans plusieurs zones, mais il augmentera entre la Rive-Sud et Montréal. En décembre 2024, lors de la publication de son budget 2025, l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, avait annoncé une hausse moyenne des tarifs de 3 % pour le 1er juillet 2025. La grille dévoilée mercredi 30 avril 2025 détaille les nouveaux tarifs qui seront en vigueur dans chaque zone de la région métropolitaine. Les prix des titres unitaires demeureront les mêmes pour la zone A, 3,75 $, qui couvre le territoire de l'île de Montréal, et pour les zones ABC, 7 $, et ABCD 9,50 $, mais ils augmenteront pour les déplacements entre les zones A et B, qui regroupent aussi Laval et Longueuil, passant de 4,75 $ à 5 $. Les tarifs unitaires seront aussi maintenus à 3,75 $ pour les déplacements en autobus à l'intérieur des zones A, B et C. Quant au titre mensuel tout mode, leur coût grimpera à 104,40 $ en zone A, alors qu'en zone AB, il sera de 164,50 $ au lieu de 160 $, et qu'en zone ABC, il passera de 196 $ à 200,50 $. La RTM propose aussi des titres spécifiques pour les usagers qui utilisent le réseau express métropolitain, REM, à partir de la rive sud. Ainsi, le prix du titre mensuel pour monter à bord des autobus du réseau de transport de Longueuil, RTL et du REM, passera de 136 $ à 152,50 $. Cette hausse de 12% est attribuable au rattrapage tarifaire découlant de l'arrivée du REM, qui a remplacé l'ancienne desserte par autobus, explique la RTM. La RTM qualifie de « responsable et nécessaire » son choix d'imposer une hausse moyenne des tarifs de 3%. Cette mesure permet de limiter les impacts financiers sur la clientèle tout en assurant que nous puissions continuer d'offrir un service fiable et performant, a soutenu le directeur général de la RTM, Benoît Gendron, dans un communiqué mercredi. L'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud estime que les hausses de tarifs sont injustes à l'égard des usagers de la Rive-Sud et de Laval, d'autant que l'offre de services a diminué depuis la pandémie et que le REM connaît un fonctionnement chaotique. Nos usagers paient plus cher année après année pour un service qui se détériore, déplore l'organisme. L'année 2025 sera marquée par la mise en service à l'automne des antennes ouest et nord du REM jusqu'aux stations Anse-à-l'Orme et Deux-Montagnes, en prévision de l'entrée en service des nouveaux tronçons au mois d'octobre 2025, CDPQ Infra a d'ailleurs commencé à effectuer des essais dynamiques du train automatisé dans le tunnel du Mont-Royal. Des tests seront par ailleurs menés sur l'ensemble du réseau du REM pendant l'été, ce qui forcera la suspension du service entre les stations Brossard et Gare Centrale du 5 juillet au 18 août. C'était « Se déplacer en transport collectif dans la région de Montréal coûtera 3% plus cher dès cet été », un texte de Jeanne Corriveau paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir.